Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est 12h31. Tout de suite le journal Antoine Marette. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Fin de cavale pour Chérif Chekat, le suspect de l'attentat de Strasbourg a été abattu hier soir par la police. L'invité du journal de 12h30 sera Nathalie Griesbeck, députée européenne, Modem et présidente de la commission spéciale sur le terrorisme.
L'attentat de Strasbourg va-t-il avoir un impact sur la mobilisation des Gilets jaunes demain, alors que plusieurs membres du gouvernement ont demandé de ne pas manifester? Le dispositif de sécurité en tout cas a été reconduit à Paris pour demain.
Bruno Le Maire va s'entretenir avec le responsable de Ford Europe dans les prochaines heures au sujet de l'avenir de l'usine de Blanquefort. Ford qui a annoncé hier qu'il écartait l'offre de reprise, une décision qualifiée de trahison par le ministre de l'économie qui a demandé à l'Américain de revoir sa décision. Nous entendrons la réaction de Philippe Poutou dans ce journal.
Dans l'actualité internationale et dans votre édition, Antoine Marette, Cesare Battisti menacé d'extradition vers l'Italie, l'ancien militant d'extrême gauche italien est réfugié au Brésil. L'Italie réclame son extradition depuis sa condamnation par Coutumas pour 4 homicides et un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné hier l'arrestation de Cesare Battisti en vue d'une extradition.
12h55, seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia.
Oh, ça va être l'art de la oisiveté, on en a peut-être tous besoin, beaucoup besoin aujourd'hui, on va en parler. Et vous allez voir, c'est très construit, très structuré avec l'essayiste britannique Tom Hodgkinson qui sera notre invité à partir de 12h55.
À tout à l'heure. La cavale de Chérif Chekat a donc pris fin hier soir à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf, là même où les autorités avaient perdu sa trace. L'homme de 29 ans, suspect numéro 1 dans l'attaque de mardi soir qui a fait 3 morts, a été abattu vers 21h lors d'un échange de coups de feu avec la police. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, s'est exprimé il y a un peu plus d'une heure. On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Chérif Chekat.
Oui, le procureur a d'abord insisté sur l'appel à témoins qui a contribué à localiser le terroriste. La diffusion de la photographie de Chérif Chekat a généré 800 appels avec deux témoignages particulièrement déterminants, ceux de deux habitants du quartier du Neudorf où les policiers avaient perdu la trace du fuyard mardi soir, ce qui a généré deux opérations importantes, la première en début d'après-midi, la seconde à partir de 19h30, menée avec le concours d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques, et ce sont des policiers de la BSP, la brigade spécialisée de terrain de Strasbourg, qui l'ont finalement repéré, explique le procureur Rémy Heitz.
C'est une patrouille de police qui a remarqué à 21h, marchant rue du Lazaret, un individu dont le signalement pouvait correspondre à l'auteur des faits. Celui-ci a alors fait mine de rentrer dans l'immeuble situé au numéro 74 de cette rue. La patrouille a emprunté la rue en sens inverse afin de se rapprocher de lui. Les fonctionnaires ont alors remarqué qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte de l'immeuble. Ils se sont alors signalés en faisant état de leur qualité de policier. L'individu s'est retourné, pointant son arme, semblable à celle utilisée mardi soir, dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière-gauche. Deux des trois policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur.
Et en plus de son revolver, un modèle ancien chargé de 6 munitions, dont 5 percutées. Chérif Chekat portait également un couteau et dans son manteau 8 autres munitions de 8 mm. Les enquêteurs vont maintenant s'attacher à reconstituer son parcours pour déterminer s'il a bénéficié d'éventuelles complicités durant ses 48 heures de cavale, identifier aussi d'éventuels co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte. La nuit dernière, deux autres personnes de son entourage ont été interpellées, ce qui porte à 7 le nombre total de gardes à vue, des gardes à vue qui peuvent aller jusqu'à 96 heures dans le cadre d'une affaire terroriste.
Et hier soir, le groupe État islamique a présenté Chérif Chekat comme l'un de ses soldats, mais sans apporter de preuves supplémentaires, une revendication jugée opportuniste par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Invité de ce journal, Nathalie Griesbeck, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne Modem, présidente de la commission spéciale sur le terrorisme. Chérif Chekat avait été condamné à de nombreuses reprises en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Alors comment l'Europe peut-elle renforcer sa réponse contre le terrorisme?
Eh bien, en poussant vers une meilleure coopération, en allant vers une sorte d'Europol, une sorte de FBI, un outil européen donc techniquement et technologiquement encore plus avancés, en multipliant les échanges d'informations et le partage de renseignements, tout en rappelant qu'évidemment, lorsque le Parlement européen a décidé de prendre une très forte responsabilité politique en créant cette commission spéciale que j'ai l'honneur de présider depuis plus d'un an, c'est dans une coopération avec les États membres, parce qu'ils disposent évidemment d'une fonction régalienne d'assurer la sécurité intérieure de chaque pays, mais que, étant donné, et on le voit dans cet attentat terrifiant une fois de plus au marché de Noël de Strasbourg, il y a évidemment des attentats qui, eux, ne connaissent ni frontières matérielles ni immatérielles. Et pendant ces heures d'angoisse très forte, que moi j'ai vécu tout particulièrement, puisque ça faisait mois que je travaille sur ce dossier, et qu'en même temps j'étais au milieu de l'attentat, mardi, j'étais au milieu du cœur de ville, en sachant qu'on n'avait pas appréhendé cet individu. J'ai d'une certaine manière vécu aussi de l'intérieur la vie des victimes, de l'environnement des victimes. Et donc cette volonté du Parlement de travailler à une meilleure coopération, c'est tenir compte aussi des logiques européennes qui font que c'est avec les autres États membres, c'est dans un plan européen, que nous pouvons réussir à nous armer ensemble pour prévenir des attentats. Je vous rappelais d'ailleurs, tout en remerciant les forces de l'ordre, que, je dirais pas tous les jours, mais extrêmement souvent, mais on n'en parle pas parce que c'est pas l'objectif, on déjoue des attentats. Et personne ne l'a dit jusqu'à présent, mais je voudrais le rappeler, on déjoue des attentats.
On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit. Question.
On l'a dit. On peut même donner quelques chiffres. 62 personnes décédées dans des attaques terroristes djihadistes en 2017, contre 135 en 2016. Voilà les chiffres d'Interpol. Mais quand vous parlez de lacunes, puisque vous parlez de lacunes en tant que président de cette commission spéciale sur le terrorisme, on se demande comment c'est encore possible. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'Europe d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bloquer encore face à la menace terroriste? Précisément.
Je veux d'entrée de jeu dire aux auditeurs que le zéro menace n'existe pas et n'est pas prêt d'exister, mais qu'on doit encore mieux s'organiser par, peut-être, vais-je utiliser un mot barbare, l'interopérabilité, c'est-à-dire rendre les systèmes donc de coopération technologiquement plus performants, améliorer donc les données échangées, pas seulement sur la circulation ou l'entrée sur le sol européen à partir des frontières extérieures, mais aussi les casiers judiciaires, mais aussi les informations entre Européens, puisqu'aujourd'hui, là aussi, vous le dites, les attentats terroristes sont un sur deux d'origine faites par des auteurs qui sont des Européens. Et donc la menace n'est pas seulement à l'extérieur de l'Union européenne, mais elle est, comme on dit, endogène, c'est-à-dire une menace qui est organisée, préparée, parfois de manière très low cost, avec très peu de moyens, souvent avec des armes. C'est le cas de cet individu du marché de Noël, qui disposait d'armes. Donc il faut multiplier la coopération, utiliser les technologies, échanger les informations en allant encore plus loin.
Justement, dans le cadre de l'alliance. Pardonnez-moi, dans le cadre de la prévention de la radicalisation, l'une de vos collègues a proposé également une liste noire des prédicateurs aux discours haineux. C'est une demande à laquelle vous souscrivez, à laquelle l'Europe peut répondre, elle qui bloque souvent sur les questions des libertés fondamentales.
Bien, le tout, c'est de réussir à bien équilibrer, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les régimes totalitaires et les démocraties, faire en sorte qu'il y ait un équilibre avec les droits fondamentaux, parce que c'est essentiel, et on invite les États membres à contrôler, à surveiller, notamment dans les prisons, là où la radicalisation souvent se cristallise, où elle commence d'ailleurs, parce que on voit bien que le profil des auteurs d'attentats, qui sont souvent passés d'abord par la délinquance ou la criminalité, sombre en prison dans la radicalisation et commettent ces attentats terrifiants. eh bien, une liste de prédicateurs ne paraît pas quelque chose de portant atteinte aux libertés lorsque, dans les prisons, on surveille la façon dont les prévenus sont susceptibles d'être radicalisés.
Merci.
Et on invite les États membres à le faire et la Commission à surveiller aussi cet aspect-là.
Merci.
Les armes, les précurseurs d'explosifs et avoir un regard évidemment sur les victimes. Moi-même, je suis encore très, très choqué de
ce. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nathalie Griesbeck, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. Alors, cet attentat à Strasbourg va-t-il avoir un impact sur la mobilisation des Gilets jaunes demain? Vous le savez, plusieurs membres du gouvernement ont demandé aux Gilets jaunes de ne pas manifester. Et sur cette question, le mouvement semble plutôt divisé. Le dispositif de sécurité, en tout cas, a été reconduit à Paris pour demain. Bonjour Élodie Rabel.
Bonjour.
On s'attend à une mobilisation moins nombreuse demain, mais peut-être aussi plus radicale.
Il est bien difficile d'estimer l'ampleur de la manifestation à venir, le mouvement n'étant pas organisé et n'ayant pas de porte-parole. Quelques jours après l'attaque de Strasbourg, le gouvernement appelle les Gilets jaunes à renoncer à la manifestation. Un discours qui indigne certains représentants de l'opposition. Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, se déclare douloureusement surpris que certains à La République En Marche utilisent l'attaque de Strasbourg pour peser sur les Gilets jaunes. Marine Le Pen, elle, se dit étonnée que l'on cherche à les culpabiliser. Hier soir, le rejet de la motion de censure déposée par la gauche a permis au chef du PS, Olivier Faure, de lancer un appel au gouvernement à changer de cap. Seulement voilà, pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, c'est déjà fait. Il estime que la colère des Gilets jaunes s'est déjà exprimée, qu'elle a été entendue et que le chef de l'État y a répondu lundi soir lors de son allocution. Une allocution entendue certes, mais pas validée sur les réseaux sociaux où le mouvement a pris forme. L'acte 5 est déjà une réalité tangible. Sur Facebook notamment, quasi lieu de concertation pour les Gilets jaunes, la page la plus populaire dénommée Acte 5 Macron démission compte 10 000 internautes qui se disent prêts à participer au rassemblement de demain. À cela, on pourrait ajouter les membres de la CGT qui appellent à une convergence des luttes et des lycéens dont la mobilisation s'amplifie depuis plusieurs jours. Mais évidemment, Antoine, nous en reparlerons avec plus de précision demain.
Merci Élodie Rabel. Bruno Le Maire va s'entretenir avec le responsable de Ford Europe dans les prochaines heures au sujet de l'avenir de l'usine de Blanquefort. Ford qui a annoncé hier qu'il écartait l'offre de reprise, une décision qualifiée de trahison par le ministre de l'économie qui a demandé à l'Américain de revoir sa décision. Bruno Le Maire s'était personnellement impliqué dans ce dossier. Alors la déception est grande également pour Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle et délégué CGT de l'usine Ford de Blanquefort.
On avait quand même ce petit espoir que, à force de tout ce qu'on faisait, avec en plus des appuis du côté du ministère, des appuis du côté des collectivités territoriales, on se disait qu'à un moment donné, Ford oserait pas aller au bout de son choix destructeur. Il y a des camarades qui ont craqué, il y a tout le côté tristesse, tout le côté désarroi, écœurement, enfin, il y a tout qui se mélange dans les têtes. Mais heureusement, rapidement, au bout de quelques minutes, on s'est dit c'est pas possible. Ford n'en a pas fini avec nous, on va continuer à se battre. Donc du coup, ce qui prend le dessus, c'est la révolte contre cette attitude-là, quoi, qui est dégueulasse, parce qu'en fait, il y a une vraie usine, il y a des compétences, il y a tout ce qu'il faut, il y a un repreneur, il y a de quoi faire. Et donc, ce serait quand même incroyable de pouvoir liquider un site comme ça avec tous les arguments qu'on a et toutes les possibilités qu'il y a de faire autre chose. Donc, ce qui prend le dessus, c'est vraiment une détermination, un acharnement à sauver cette usine. On essaie de comprendre l'obsession de Ford à vouloir fermer cette usine-là, effectivement, parce qu'il n'y a pas de problème de concurrence, puisque Ford fait ses choix et puis donc... Le fait que Punch puisse reprendre une activité, enfin peut-être qu'il y a un peu de ça, mais on pense pas que ce soit ça. Nous, on se l'explique par le fait que Ford, cette usine-là, c'est un cauchemar pour lui depuis des années, puisque ça fait 10 ans que Ford veut fermer l'usine. Ils ont pas réussi en 2008, ils avaient failli réussir parce qu'ils étaient partis, ils avaient trouvé un repreneur complètement bidon et qui avait complètement échoué très rapidement, ce qui fait qu'ils avaient été un peu obligés de revenir, enfin en tout cas on avait bataillé pour ça, et Ford a dû revenir, a dû racheter l'usine, a dû remettre de l'activité. Et depuis, ben, c'est un bras de fer avec eux, parce qu'on sentait bien qu'ils voulaient revenir sur l'idée de fermer l'usine le plus rapidement possible. C'est ce qu'ils ont fait cette année. Et puis l'autre aspect, c'est qu'une reprise de l'usine, ça veut dire que ça implique Ford, d'une manière ou d'une autre, à la fois sur des productions pendant une période de transition et en même temps sur des fonds qu'il faudrait lâcher un peu, parce que une reprise, pour que ça fonctionne, ben, il faut qu'il y ait la coopération, en tout cas, entre le lâcheur et le repreneur. Donc ça oblige Ford à rester impliqué dans l'histoire au moins pendant un petit moment, et ça, visiblement, Ford n'en veut plus.
Philippe Poutou, joint au téléphone par David Ravier. Dans l'actualité internationale, Cesare Battisti, menacé d'extradition vers l'Italie, l'ancien militant d'extrême gauche italien est réfugié au Brésil. L'Italie réclame son extradition depuis sa condamnation par contumace pour 4 homicides. Et un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné hier l'arrestation de Cesare Battisti en vue d'une extradition. Les détails avec Olivier Poujade.
L'Italie et le Brésil sont désormais sur la même longueur d'onde idéologique. L'élection du président d'extrême droite Bolsonaro et l'avènement de la coalition populiste de Salvini et Di Maio en Italie ont instantanément retissé les liens entre les deux pays. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Cour suprême brésilienne accède aujourd'hui aux sollicitations quasi obsessionnelles de la droite italienne sur Cesare Battisti. L'ancien militant d'extrême gauche a toujours clamé son innocence et conteste toute forme d'implication dans les 4 meurtres commis à la fin des années 70 pour lesquels il a été condamné. Depuis 1981, Cesare Battisti a donc passé la moitié de sa vie à fuir, à la merci des alternances politiques de ses pays d'accueil. C'est en 2004, à son arrivée au Brésil, que la justice se penche sur sa situation. La Cour suprême brésilienne se dit favorable à son extradition, mais laisse la décision finale entre les mains du président de l'époque. Lula s'appuie sur une disposition du traité, estimant que Battisti court un risque de persécution et de discrimination en cas d'extradition. Ce sera sa dernière grande décision sur le plan international. Le dernier jour de son mandat, le 31 décembre 2010, Lula refuse de renvoyer Battisti en Italie. Le virage politique d'octobre dernier au Brésil change la donne. Au nom de la lutte contre le terrorisme, Bolsonaro se dit lui en faveur de l'extradition de Battisti. Salvini applaudit des deux mains. Battisti rappelle qu'il reste protégé par une décision de la justice brésilienne qui, elle, confirme aujourd'hui sa disposition à traiter en urgence les requêtes du nouveau président d'extrême droite.
Le Conseil européen se penche aujourd'hui sur les questions budgétaires dans un contexte rendu plus difficile par les déficits prévisibles de certains États, comme l'Italie ou la France. Un sujet polémique, Rome dénonçant une politique de poids de mesure qui privilégierait les Français. Le Conseil se penche également sur le projet de budget de l'Union européenne à partir de 2021, c'est-à-dire sans la contribution britannique. La sortie du Royaume-Uni, désormais actée, se présente plutôt mal malgré le plaidoyer de Theresa May devant ses homologues européens hier soir. À Bruxelles, les précisions de Bertrand Galichet.
Si Theresa May espérait rentrer à Londres avec d'ultimes concessions des Européens pour amadouer le Parlement du Royaume-Uni, c'est plutôt raté. Sa prestation hier soir devant les 27 chefs d'État ou de gouvernement les a laissés perplexes, au point que beaucoup d'entre eux se demandent si la chef du gouvernement britannique ne cherche pas uniquement à gagner du temps. Theresa May a demandé à ses homologues de lui faire confiance, mais a été, semble-t-il, incapable d'énoncer des demandes précises pour rendre acceptable aux Britanniques l'accord sur le Brexit. Alors son tête-à-tête ce matin avec Emmanuel Macron permettra-t-il de débloquer la situation ? On ne le sait pas encore, mais les dirigeants européens se montrent plutôt pessimistes après le dîner d'hier soir consacré au Brexit. Charles Michel, le Premier ministre belge.
Très objectivement, les signaux que nous avons entendus hier ne sont pas spécialement rassurants sur la capacité en Grande-Bretagne de pouvoir honorer l'engagement qui a été conclu. Et donc nous allons veiller à préparer toutes les hypothèses et préparer également l'hypothèse d'un no deal.
L'autre grand sujet de ce sommet, c'est le budget à long terme de l'Europe pour la période 2021-2027. Les dirigeants européens espèrent trouver un accord à l'automne 2019, un objectif ambitieux, tant les divergences entre États refont surface à l'occasion du départ du Royaume-Uni. Le débat est serré, sur fond de déficit budgétaire français et de critiques italiennes. Enfin, le budget de la zone euro porté par la France suscite toujours les réticences de l'Allemagne. Il devrait voir le jour sous une forme plus modeste que celle souhaitée par Paris, sans ministre européen des Finances ni fonds monétaires européens.
En Syrie, l'État islamique semble lâcher prise dans la dernière grande bataille menée par la coalition. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Daesh a perdu la dernière grande ville qu'il tenait dans le sud-est de la Syrie. Les forces démocratiques syriennes auraient, d'après ces informations, repris en totalité la ville de Hadin. C'est un tournant dans la lutte contre l'État islamique en Syrie. Cette avancée marque un pas vers la victoire pour la coalition, mais ça n'est pas pour autant la fin de Daesh, Étienne Monin.
Adjin, c'est le dernier réduit de Daesh, la dernière ville importante entre les mains des djihadistes, le dernier secteur de repli dans lequel se trouvaient les plus radicaux et les plus aguerris des combattants. La bataille a été lancée il y a 3 mois. Elle est conduite au sol par les forces démocratiques syriennes, un groupe essentiellement composé de Kurdes soutenus par les Américains, appuyés dans les airs par les moyens de la coalition avec des drones, des avions de chasse et des bombardiers. La France est engagée dans cette dernière bataille. 4 Rafales opèrent de façon quotidienne et des canons César longue portée ciblent des objectifs définis par la coalition. Malgré l'importance des moyens, l'avancée des Kurdes a été laborieuse. Ils ont subi un important revers il y a 1 mois et demi. Les combattants de Daesh ont procédé par contre-attaque. Ils ont joué des conditions météo et des tempêtes de sable pour se cacher des moyens d'observation. Aujourd'hui, les combats ne sont pas terminés. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes restent maîtres de plusieurs villages, mais cette avancée marque la fin de Daesh comme entité militaire et sa transformation petit à petit en groupe totalement clandestin.
Sébastien Petronin met en cause le gouvernement français. Le fils de Sophie Petronin, otage depuis près de 2 ans au Mali, affirme que les ravisseurs de sa mère lui ont fait une proposition inespérée, proposition que le gouvernement français a selon lui refusée. Il a expliqué ce matin au micro d'Omar Waman.
La personne qui était en face de moi était fiable. C'était quelqu'un qui avait pignon sur rue. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui a à la fois pignon sur rue et qui parle à des djihadistes. Il y en a quelques-uns, mais les profils sont très rares. Le montant était symbolique. Les paramètres de sécurité avaient été respectés, le danger écarté. Et malgré tout, ça n'a pas pu être mis en place. Je pense qu'il y a un refus du chef de l'État de montrer le moindre signe de conciliation. C'est un refus de vouloir faire la paix. Pour l'instant, M. Macron est dans une attitude de faire la guerre. Il entend gagner cette guerre par la force. Et ce qu'il pourrait estimer perçu comme de la conciliation, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il est là le nœud.
La COP24 toujours en attente d'un texte final qui puisse être adopté par l'ensemble des 195 pays présents, si bien que le sommet climat qui se tient à Katowice en Pologne pourrait jouer les prolongations, il devrait se terminer plutôt demain. Les divisions restent fortes sur l'application de l'accord de Paris. Quelles règles communes pour l'appliquer, mais aussi quelle hausse des efforts à faire par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Tension également autour des financements. Les négociateurs semblent depuis plusieurs jours, englué dans des enjeux à la fois complexes et techniques, quand la jeunesse qui a fait son entrée dans ces COP rappelle l'urgence à agir. Véronique Rebérotte.
Une chorale d'une trentaine d'enfants polonais accueillit les délégations officielles ce matin. Ils tenaient des banderoles rappelant que la science ne donne aux grandes ce monde que 12 ans pour sauver la planète avant un emballement du climat dramatique pour tous les humains sans exception, riches ou pauvres. Sena Aluka, jeune négociateur dans la délégation togolaise, n'en revient pas de l'immobilisme des États ici en Pologne face à une urgence pourtant martelée à longueur de discours.
La science nous donne un ultimatum 12 ans pour sauver l'armageddon climatique, faites davantage. Et ça, nous ne le voyons pas. Hier, j'ai presque vu des négociateurs pleurer. Il y en a qui ont dit, bon, ce n'est pas la peine, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on est en train de jouer un peu aux petits enfants, aux petits dieux, aux petits savants. Et effectivement, les gars, nos collègues du Nord, ont tout le savoir-faire pour pouvoir truquer les petits chiffres. Ils ne font rien, mais on va voir qu'ils vont faire beaucoup. Et nous n'avons pas les moyens pour suivre ça. Nous avons affaire ici à une situation globale, mondiale, qui ne laisse personne de côté.
La COP24, toujours à la recherche d'un texte consensuel, devrait se terminer plus tôt demain, voire dimanche matin.
Cet après-midi, beau temps sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Corse et des Pyrénées, qui subiront des averses. Températures en baisse par rapport à hier. 1 degré à Strasbourg, 2 à Paris, 5 à Brest, 12 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia, journal réalisé dans des conditions particulières. Vous l'avez peut-être remarqué en raison de la grève de techniciens du centre de modulation qui assure les duplex. Un appel général a été lancé à la grève, a été lancé par la CGT qui réclame des hausses de salaire. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Alexandra Duboucheron.